du service Une Seule Santé de Bordeaux Métropole et de Bordeaux, la ville de Bordeaux également.
Alors, est-ce que juste pour, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet sur ces fameuses punaises de lit, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le fonctionnement de votre service ? Vous servez à quoi ?
Alors, historiquement, la ville de Bordeaux dispose d'un centre de lutte antivectorielle. On a aussi un centre de lutte contre les moustiques, donc aussi un sujet phare. Et puis, des inspecteurs de salubrité qui interviennent sur tout ce qui est insalubrité dans les logements et suivi de l'hygiène alimentaire, suivi des ondes électromagnétiques, donc de tout ce qui peut être pollution et qui peut perturber la santé de la population ou faire courir un risque à la population. C'est à peu près tous les sujets que nous traitons dans le service.
Alors, du coup, ça veut dire que un particulier peut vous appeler de la métropole s'il a un problème que vous traitez. On peut vous appeler pour avoir des conseils ou des interventions.
Oui, on peut passer par le site de la métropole ou par le site de la ville de Bordeaux et nous envoyer un message. Et on reçoit par jour au moins une cinquantaine de signalements sur les divers sujets dont je viens de vous parler, et notamment des signalements concernant les punaises de lit. Sachant que les signalements concernant les punaises de lit, nous ne prenons pas les signalements des particuliers puisque nous ne sommes pas en concurrence avec les sociétés privées. Nous traitons le patrimoine de la ville de Bordeaux. Nous traitons chez les particuliers uniquement sur signalement du centre communal d'action sociale, d'associations qui accueillent du public un peu défavorisé, et bien évidemment nos inspecteurs de salubrité dont j'ai parlé quand ils font des visites de logement et qu'ils constatent une infestation par des punaises de lit.
Oui, donc du coup, quand on est particulier, on peut vous appeler pour avoir des conseils, mais après, on fait vraiment appel plutôt à des sociétés spécialisées.
Bien entendu, oui, nous n'intervenons pas en concurrence de sociétés spécialisées. En revanche, oui, nous pouvons conseiller et délivrer des informations quant aux recommandations pour se prémunir des punaises de lit. Ouais.
Alors, du coup, le sujet des punaises de lit, on le disait, hein, c'est un sujet qui fait l'actualité en cette rentrée. Déjà, est-ce qu'on pourrait donner une fiche d'identité d'une punaise de lit? C'est quoi?
Alors, c'est un petit insecte qui est visible à l'œil nu, qui, malheureusement pour nous, se nourrit du sang des hommes. Donc, c'est un insecte qui vit avec nous, qui ne supporte pas la lumière. Donc, il reste plutôt caché dans le noir. C'est un petit peu son défaut. C'est plus compliqué à trouver. Donc, il se cache en général dans nos matelas, puisqu'il aime la chaleur, l'humidité. Donc, on le trouve souvent sur les jointures, les coutures des matelas. On les trouve dans les plinthes, puisqu'ils vont se cacher dans les plinthes. On les trouve dans les tapisseries. Elles sont un peu cachées derrière les tapisseries. Donc c'est un insecte qui vit avec nous toute l'année. Il n'y a pas réellement de saisonnalité puisque en fait il vit à l'intérieur de nos maisons.
Et comment on le fait arriver dans nos maisons ?
Alors en général, on récupère une punaise de lit parce qu'on a ramené chez soi une valise qu'on a transportée. On a évolué aussi dans nos modes de vie, donc on bouge beaucoup plus, on voyage beaucoup plus, on fréquente différents logements et éventuellement on consomme aussi bien différemment puisqu'on est beaucoup sur du seconde main et donc on ramène chez soi des objets qui sont potentiellement infestés par des punaises de lit.
Du coup, là, il y a une vraie psychose en ce moment avec, on voit les punaises de lit un petit peu partout. Alors, on les voit dans les maisons, mais aussi on voit qu'il y a les interventions qui ont augmenté là ces dernières années. Et puis, dans les transports en commun, à la SNCF, etc. Est-ce que vous avez vu une recrudescence du nombre d'appels est-ce que vos agents qui ont pu passer dans certaines habitations, enfin voilà, est-ce qu'il y a une recrudescence sur Bordeaux Métropole de cas de punaises de lit dans les habitations?
Alors, comme on ne contrôle pas et qu'il n'y a pas d'observatoire non plus national de la punaise de lit et que nous ne sommes pas à la croisée de l'ensemble des signalements, je ne saurais pas vous dire s'il y a une augmentation sur Bordeaux. En tout cas, par rapport au traitement que nous mettons nous en place sur notre patrimoine et sur le peu de traitement que nous faisons chez les particuliers qui nous sont adressés, il n'y a pas spécialement plus de punaises de lit. Il y a certainement une mise en lumière de ce sujet ces derniers temps, ça c'est évident. Je l'ai dit, une évolution de nos modes de vie qui fait que peut-être on aurait tendance à en ramener un peu plus dans nos logements, mais nous intervenons à peu près 500 fois par an. On a un collaborateur qui est dédié à temps plein sur le sujet punaises de lit et qui fait à peu près 500 interventions par an. Pas plus, pas moins. Les infestations, en revanche, par contre, ce que je peux dire, c'est que les infestations qui sont un peu lourdes sont plus compliquées qu'avant à résoudre. Les produits sont moins efficaces parce qu'on s'en est beaucoup trop servi, on en parle beaucoup, hein, la lutte chimique, les insecticides. Les punaises sont devenues résistantes à certains insecticides, donc les traitements sont peut-être plus longs. C'est peut-être ça aussi qui se ressent dans la population.
Et vous me disiez tout à l'heure que peut-être on en faisait un peu trop à ce sujet. Ça avait été beaucoup médiatisé et qu'il fallait ne pas partir dans cette psychose, en fait.
Oui, c'est extrêmement anxiogène comme sujet. D'ailleurs, l'impact de la punaise de lit n'est pas sur la santé physique, hein, puisque sa piqûre, bon, est très désagréable. Effectivement, elle gratte. C'est pas confortable, mais jusqu'à présent, aucune étude n'a prouvé que la punaise de lit était vecteur de maladie. Donc, il n'y a pas de danger immédiat, mais en revanche, il y a un danger pour la santé mentale. Et c'est vrai que ce battage médiatique actuel m'inquiète au niveau de la santé mentale des gens, parce qu'une personne qui a connu une infestation de punaise de lit reste en général un petit peu marquée. Et je pense que plus on en parle et plus ça fait rejaillir ce sentiment d'inquiétude qu'ont pu avoir les gens lorsqu'ils ont été infestés.
Comment on fait pour se prémunir de cette invasion de punaises de lit? Il faut, vous me disiez, le prendre très rapidement au sérieux, enfin s'en rendre compte assez rapidement, regarder assez rapidement son matelas, cette tapisserie.
Oui, on le disait, hein, la punaise de lit est un insecte qu'on détecte facilement à l'œil nu. Je crois que maintenant tout le monde a vu sa photo, donc c'est l'ennemi public numéro un, on la reconnaîtra. Donc vérifier de temps en temps son matelas, vérifier les deux côtés, les jointures des matelas, être attentif aux piqûres qu'on peut avoir. En général, une punaise de lit, c'est 3 piqûres qui sont en ligne, c'est assez, ça se reconnaît assez facilement. Et puis surtout, on reconnaît les excréments des punaises de lit sur le matelas, ça c'est pas normal quand on voit des insectes sur son matelas. Et s'en prémunir, c'est faire attention aux objets qu'on ramène chez soi, aux vêtements de seconde main. Donc c'est assez simple, en fait, il faut laver à 60 degrés, ce qui peut être lavé à 60 degrés. Ce qui ne peut pas l'être, il faut le congeler pendant 48 à 68 heures. Donc quand on ramène un objet chez soi dont on n'est pas certain, on l'emballe d'abord dans un sachet hermétique, on le congèle ou on le lave, et ensuite seulement on le sort de son sachet hermétique.
Et d'ailleurs, vous disiez, il y a le textile, enfin souvent la première chose à laquelle on pense, c'est ça peut être un habit, mais ça peut être vraiment n'importe quel objet, un livre, tout quoi.
Oui, c'est souvent les livres, en fait, ça peut être un meuble qu'on a récupéré dans la rue, et ça peut être un livre. Donc c'est vrai que je conseille la congélation pour ce qui est de tout ce qui peut être de taille à être congelable. Et après, ben, pour le reste, il faut aspirer beaucoup, hein, c'est ce qu'on appelle le traitement mécanique chez nous. Donc c'est la lutte soit thermique avec la chaleur ou le froid, et la lutte mécanique avec l'aspirateur. Donc bien aspirer, et surtout penser à sortir sa poche d'aspirateur, la mettre dans un sachet hermétique et la jeter, et nettoyer l'aspirateur après.
D'accord.
C'est assez contraignant.
tout un système. Est-ce que ça peut vraiment toucher tout le monde, même si on veut pas mettre la terreur à tout le monde, mais ça peut toucher tout le monde. C'est pas forcément qu'une certaine catégorie de personnes qui prendraient pas bien soin de sa maison.
Non, tout le monde est susceptible de ramener une punaise de lit chez lui. Il faut simplement être attentif à ne pas le faire et à veiller de temps en temps à surveiller une infestation potentielle qui se déclarait. Mais vraiment, pour rassurer les gens, quand on est en début d'infestation, c'est très facile mécaniquement, en aspirant, en lavant bien le linge, en isolant la pièce sur laquelle on suppute qu'il y a des punaises de lit, en ne faisant pas sortir d'objets de cette pièce, avec un bon nettoyage mécanique, en général, on arrive à s'en sortir. Il faut surtout éviter que l'infestation s'installe.
Et du coup, est-ce qu'il y a des produits naturels, par exemple, pour ne pas avoir de punaises de lit chez soi, ou c'est vraiment que ce système-là de vérifier qui marche finalement?
Non, à notre connaissance, aucun produit naturel ne repousse la punaise de lit. Pour l'instant, scientifiquement, rien n'est prouvé, non.
D'accord.
Vous avez appris des choses sur 8FM. Alors continuez de nous écouter, parce que ce n'est pas fini. Bonne écoute.
Je suis Anne-Sophie Vive, je suis directrice de l'association Elburn, plus connue sous le nom d'Elburnette.
Qu'est-ce que vous allez proposer durant ce festival? Quelle thématique est-ce que vous proposez?
Alors, on va essayer d'aborder un sujet dont on parle peu souvent, c'est-à-dire le burn-out parental. On parle beaucoup du burn-out professionnel et moins du burn-out parental qui touche quand même 5 à 8% des parents. Et 34% des parents se sentent concernés. Donc, c'est quand même un sujet qui est prégnant. Mais on va l'aborder de façon ludique, divertissante, mais aussi de façon informative. C'est-à-dire qu'on va proposer donc sur la thématique parents imparfaits, parents épuisés, pour parler à travers des scénettes d'improvisation de nos tranches de vie. On aura briefé donc une compagnie de théâtre qui va justement improviser sur cette thématique-là. Et nous, en tant qu'association spécialisée sur cette question, avec une psychologue spécialisée, Mélanie Balès, on va pouvoir rebondir sur ces scénettes, dire ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui sortir des idées reçues peut-être, et donner des pistes d'action, donner des pistes, des éléments de repérage pour savoir quand est-ce qu'on bascule de je suis épuisé à je suis effondré en fait. Voilà, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, c'est pour le grand public parce qu'on est tous parents ou aidants de parents ou famille de parents, on est tous des sentinelles pour pouvoir aider des familles à pas basculer dans le burn-out.
Bon, j'imagine que l'épuisement parental, on va pas dire que ça a toujours été, mais est-ce que voilà, il y a une étape qui a été franchie peut-être ces dernières années avec des fois les réseaux sociaux, l'éducation positive, etc. Est-ce que c'est ça qui a amené peut-être à cet effondrement pour certains parents?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'avec l'avènement de la psychologie positive dans les années 70-80, on a commencé à changer le prisme de l'éducation avec tout un tas d'injonctions de perfection pesant sur la tête des parents, avec beaucoup moins de on peut plus punir les enfants. C'est vraiment le bien-être de l'enfant, en tout cas, qui est mis au centre de la relation. Du coup, on en a oublié le bien-être aussi des parents, parce que pour être un bon parent, il faut être bien soi-même en fait. Mais c'est aussi lié à l'évolution de la sphère familiale, avec des familles monoparentales où il y a sur un parent repose toute une charge mentale, toute la charge du foyer, avec des familles où on n'a plus les grands-parents pour aider, où les femmes ont accédé au milieu du travail mais sans être déchargées derrière. Et puis aussi ce phénomène en effet des réseaux sociaux où on rend parfait en fait, on renvoie une image du parent parfait qu'on devrait atteindre, et donc on a des parents en fait qu'on veut déculpabiliser parce qu'ils sont dans cette obligation de faire bien, d'être des bons parents, de cuisiner bio, de faire 50 000 activités assurées pour les enfants pour qu'ils se sentent bien, des choses qu'on n'avait pas il y a encore quelques décennies. Donc c'est une énorme charge, une énorme responsabilité qu'on fait peser sur les parents. Là, l'idée c'est de dire on est tous imparfaits et c'est ok en fait. On peut être de bons parents même si on n'a pas prévu 50 activités pour son enfant, même si on l'a pas animé, on peut être aussi des bons parents comme ça. On voit bien que la prévalence des parents, c'est pas forcément lié à la catégorie socio-professionnelle. Il va y avoir des facteurs individuels, c'est-à-dire des parents qui sont très perfectionnistes par exemple, mais il peut y avoir aussi des facteurs externes, c'est-à-dire par exemple des parents qui vont avoir des enfants porteurs de handicap ou des enfants qui vont être plus difficiles ou des enfants qui vont pas dormir la nuit, ça aussi ça va être des facteurs de risque pour eux. Donc c'est là où il y a un intérêt à savoir quels sont leurs facteurs de risque internes, externes, quelles sont leurs ressources et sur quoi on peut jouer en fait.
Et à quel moment est-ce qu'il faut, on va dire, demander de l'aide, à quel moment on sent que ça va basculer et ça peut avoir aussi un effet sur ses enfants, sur la parentalité? Quels sont un peu vos conseils?
Alors c'est vrai qu'il y a un certain stade où il va falloir avoir une aide extérieure parce que ça va être difficile. Le déni fait partie du processus de burn-out et donc souvent on va pas le voir. Les personnes consultent pas pour épuisement, elles vont consulter parce que mon enfant est difficile, parce que donc en fait un parent qui se reconnaît plus en tant que parent, qui va malheureusement avoir une vision très dégradée de son rôle de parent, un parent qui va être très irritable, qui va pouvoir par exemple crier sur ses enfants enfants alors qu'avant ils ne le faisaient pas. Un parent qui va avoir des troubles du sommeil, qui va avoir du mal à récupérer, c'est pas juste la petite fatigue ou 3-4 nuits de sommeil et c'est bon, des vacances et c'est bon. Non, c'est une fatigue qui se récupère pas en fait. Et puis enfin, c'est un parent qui va être en pilote automatique, qui va faire ses tâches ménagères parce qu'il faut les faire, mais en se distanciant affectivement de ses enfants en fait. C'est-à-dire que on a des parents malheureusement qui ne ressentent plus d'affection pour leurs enfants. Parfois leurs enfants, c'est un peu comme des éléments qui vont les tirer vers le bas, et parfois ils ont juste envie de partir, d'être dans une bulle et de plus être là quoi. Donc vraiment là, il faut vraiment consulter quand on est dans ce cadre-là, avoir de l'aide extérieure, avoir de l'aide de personnes qui les comprennent, parce que ça peut être extrêmement, on est encore très culpabilisant sur les personnes qui vivent un burn-out, notamment un burn-out parental, parce que peut-être qu'elles ne travaillent pas, et alors pourquoi tu te plains, pourquoi tu fais un burn-out, tu n'as qu'un enfant, pourquoi tu fais un burn-out, moi je m'en suis sortie. La société est encore très difficile avec ces personnes-là, et donc avoir une parole très bienveillante, comprendre, même si les parents peuvent avoir parfois des propos durs, mais ils ont besoin d'être accompagnés, d'être compris dans cette phase-là, et ensuite les aider à mettre en place des leviers qui puissent les aider.
Et est-ce que d'ailleurs vous formez des gens, est-ce que vous essayez de mettre en place des formations ou de faire passer ce message qu'il faut aider, qu'il ne faut pas faire culpabiliser les parents?
Oui, alors on a mis en place des formations justement pour l'aide au repérage, l'aide à l'action, comment je parle à quelqu'un qui est en train de faire un burn-out, parce que la personne, elle peut réagir soit en déni total, et donc elle va dire qu'il n'y a aucun problème, que le problème vient d'ailleurs, soit en réaction de colère, et donc on va avoir tendance à aller voir la personne et pas aller la revoir en fait, elle va rejeter souvent l'aide. Donc on aide les personnes à savoir quoi dire, comment réagir, vers qui orienter, quels sont les acteurs, et ensuite à orienter vers notamment l'association pour une prise en charge beaucoup plus globale prise en charge.
Et ça, c'est au sein de votre association? Oui. Que vous mettez en place?
On met en place ces formations, que ce soit pour les entreprises quand c'est du burn-out professionnel, mais on est en train de le développer pour les particuliers aussi.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know.
But it shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Alors bonjour, Étale Le Bobinec, présidente de Vous comme elle.
D'accord, très bien. Alors du coup, est-ce que vous pouvez déjà commencer par m'expliquer un petit peu ce qu'est le rallye des pépites, comment ça s'est construit?
Le rallye des pépites, en fait, c'est un jeu de pistes à travers les entreprises sur un territoire, donc là en l'occurrence la métropole bordelaise, ouvert à des équipages du grand public. Donc par quatre, on va dispatcher ces équipages le matin qu'on a rassemblés sur un village de départ. On va les envoyer découvrir des entreprises de la métropole et ils vont aller d'entreprise en entreprise toute la journée sous un format original qui est un vie ma vie métier. Les collaborateurs ne vont pas leur faire visiter leur entreprise, mais bien leur présenter leur métier en leur lançant des défis métiers.
D'accord. Quel est le but en fait de ce rallye? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire ressortir?
Alors l'objectif, c'est de casser les stéréotypes du monde de l'entreprise, rapprocher le grand public du monde de l'entreprise. Et cerise sur le gâteau, on parle de la femme par l'exemple. Donc on parle de mixité professionnelle et quand on parle de stéréotypes, bah, c'est aussi la place de la femme en entreprise.
Ça va être la 10e année du coup que vous mettez en place ce rallye le 9 mars prochain. Et vous avez entre-temps décidé de faire une BD. Pourquoi s'être lancé dans cette aventure de la BD?
Alors, effectivement, on pourrait croire que ça date d'hier, mais non. Dès que le rallye a été créé, on avait bien en tête de se lancer aussi sur ce support ludique, puisque finalement, le rallye Pépite, c'est un support ludique, mais avec un enjeu de fond sérieux. La BD, c'est la même chose, support qui se veut ludique. On dit souvent que c'est fait pour les enfants, mais pas toujours. Ça peut être aussi sérieux. Et le même objectif, c'était de casser les stéréotypes du monde de l'entreprise. Donc là, on est parti carrément sur un équipage stéréotypé, trois jeunes femmes et un homme, qui vont évoluer dans leur représentation tout en jouant un rallye, finalement, avec des anciennes pépites. Et donc, ce ne seront que des femmes chefs d'entreprise ou directrices d'entreprise.
Et à qui il s'adresse, du coup, cette BD? À qui est-ce qu'elle va être distribuée?
Alors, effectivement, l'objectif, c'est d'agrandir la visibilité et les messages portés par cet événement, donc avoir le plus d'impact social possible. Donc, on va le distribuer gratuitement et numériquement à l'ensemble des établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine. À ce titre, d'ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine nous a subventionné une partie de ce projet, voilà. Et puis après, il y aura des albums papier collector, puisque bon, c'est toujours sympa d'en avoir dans les mains, de pouvoir toucher tout ça. Voilà.
Est-ce que en 10 ans, il y a eu des changements, enfin grâce au rallye, du coup, des pépites. Là, je reviens sur le rallye. Voilà, est-ce que ça a permis des changements dans la façon de voir l'entreprise, de voir l'entrepreneuriat féminin? Comment est-ce que vous l'évaluez ça?
Alors, on le mesure pas directement, mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce que à commencer par les entreprises qui accueillent, ça leur permet de faire un arrêt sur image sur ce qu'ils font sur le sujet. Donc on a des entreprises exemplaires qui vont inspirer d'autres, les participants, mais on a des entreprises qui n'ont absolument rien fait sur le sujet, qui de fait de s'adosser à l'événement vont se poser la question et vont se demander ce qu'ils peuvent faire pour faire évoluer les choses au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est déjà intéressant. On a eu ensuite au niveau des participants des personnes qui ont osé créer leur entreprise suite à leur participation au rallye. L'effervescence et la dynamique dynamique de la journée leur a fait dire qu'il fallait créer leur entreprise. Et symboliquement, d'ailleurs, je me souviens très bien, dès les premières éditions, une jeune femme équipage a créé son entreprise l'année d'après. Et du coup, elle a voulu être étape symboliquement l'édition suivante. Donc ça, c'est superbe. Et puis, on a vu aussi des entreprises recruter des femmes spécifiquement dans des métiers où on ne les attendait pas, notamment l'industrie. Je pense à une particulièrement à Pau, en mécanique de précision. Voilà.
Et il faut continuer à proposer ce rallye. Enfin, on n'est pas arrivé, à une... pour vous, il faut continuer à proposer ce rallye pour continuer à ouvrir les portes de ces entreprises au grand public.
Oui, complètement, c'est important parce qu'on l'a vu pendant la Covid. On a comme partenaire l'État, la délégation aux droits des femmes, qui nous a dit qu'il y avait une régression à ce niveau-là, au niveau de la place des femmes dans l'entreprise, puisque finalement elles se sont retrouvées à garder les enfants. Donc ça, c'est une réalité. Après, aujourd'hui, on a des dérivés. On fait des rallyes emploi, des rallyes orientation métier, et on se rend compte que c'est très intéressant et important de montrer des exemples féminins, puisque les jeunes on a envie de traiter ce sujet-là et différemment de nos aînés. Donc oui, il faut continuer.
Clara Maumont, directrice générale de l'entreprise Vous Comme Elle.
D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette BD, comment elle s'est élaborée, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur?
Alors la BD, c'est ni plus ni moins que le rendu d'un rallye des pépites réel, puisque on est allé chercher des entreprises qui ont déjà participé en tant qu'étape à nos rallyes, et donc on s'est inspiré de leur contenu, donc à savoir les défis métiers qu'elles ont fait vivre aux participants. Et donc on a un équipage un peu stéréotypé, inspiré de participants que l'on a pu avoir et rencontrer sur nos différents événements, qui va aller donc d'entreprise en entreprise, où ils vont être accueillis par les salariés, dirigeantes pour le coup de ces entreprises, et qui vont leur faire vivre leur métier. Donc on est vraiment sur des contenus inspirés de faits réels pour faire vivre le rallye des pépites aux lecteurs.
Ouais, ça, vous vous êtes inspiré de tout ce qui a pu se passer ces 10 dernières années lors de ces journées.
Exactement, on a été récoltés auprès d'entreprises, auprès des bénévoles qui nous accompagnent le jour J, auprès de nos participants, un certain nombre d'anecdotes pour essayer de coller au plus proche de l'événement. Et d'ailleurs, le script doctor et l'illustratrice qui nous ont accompagnés sur la réalisation de cette bande dessinée ont eux-mêmes participé à l'événement avant de se lancer dans l'écriture de cette bande dessinée pour pouvoir coller toujours au plus proche de la réalité de l'événement.
J'ai lu les premières pages, on voit le monsieur là de l'équipage qui est pas forcément très inspiré, enfin pas très envie d'aller faire ce rallye. Alors j'ai pas lu la suite, mais j'imagine que peut-être à la fin ça lui a permis de voir pas mal de choses et d'être plutôt contente de cette journée. C'est un peu ce qui se passe des fois, certaines viennent à reculons et puis finalement à la fin de la journée sont plutôt contents.
Alors oui, effectivement, ça peut arriver. On a différents publics, de personnes qui sont un peu éloignées du sujet de la mixité parce qu'ils pensent que c'est pas un sujet et qui finalement se rendent compte dans la journée que ben si, le sujet existe encore. Des jeunes qui pensaient venir à un rallye automobile alors qu'en fait ils se rendent compte qu'on vient pour découvrir des entreprises et du coup qui sont dithyrambiques en fin de journée. Et puis ça peut aussi être des personnes qui savent pas trop à quoi s'attendre en venant, mais qui sont embarquées parce qu'ils ont bien détecté qu'il y a une énergie positive sur cette journée et qui du coup se rendre compte qu'au-delà de cette journée fun, il y a un vrai contenu qui est là. Donc oui, c'est souvent le rallye des pépites, c'est souvent une belle surprise et parfois là où on ne s'attendait pas.
C'est le tome 1, du coup j'imagine que vous avez dans l'idée de faire d'autres tomes.
Oui, alors c'est bien l'objectif. On va voir déjà quel est l'accueil que l'on aura sur ce premier tome. C'est plutôt bien parti, mais du coup, si l'accueil est au rendez-vous, l'idée c'est de continuer sur différents tomes et continuer à prêcher la bonne parole par ce support-là.
Bienvenue sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Le Zoom Info. Pourquoi je ne peux pas prendre n'importe quel prénom? Quelles sont les conséquences si on ne respecte pas la loi? Autant de questions auxquelles tente de répondre la bande dessinée Le droit expliqué aux enfants, imaginée par Marie Crespe, maîtresse de conférences en droit privé à l'université Bordeaux-Montaigne. Un projet né d'un constat.
La nécessité que tout un chacun connaisse le droit, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes. Le constat aussi que tel n'était pas le cas, donc d'un besoin, d'une lacune dans les connaissances, dans la culture générale de tout un chacun adulte, et puis évidemment de tout un chacun enfant. Je me suis dit, mais en fait il n'y a pas de livre qui explique le droit en tant que système aux enfants.
Et c'est donc sous forme de questions que se présente chaque thème de cette bande dessinée.
Le livre est organisé par 11 entrées, 11 questions, donc 11 thèmes, les thèmes les plus généraux, les questions qu'il me semblait qu'on se posait quand on ne connaît pas le droit. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut en prendre connaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le respecte pas? C'est un métier, le droit? Enfin voilà, toutes ces questions un peu générales et qui sont censées balayer, donner une première approche pour commencer à identifier le droit. Voilà.
Car pour la spécialiste en droit, l'idée avec ce livre est de donner un socle de connaissances aux plus jeunes pour permettre à la société de mieux fonctionner plus tard.
Quel est le sens d'apprendre le droit aux enfants? C'est d'en faire des membres à part entière de la société. On leur apprend plein de choses, mais pas le droit. C'est pas possible. On pose des bases, on sème des petites graines pour tout le monde, déjà. Comme ça, après, chacun, dans sa vie scolaire, personnelle, professionnelle, va laisser grandir cette petite graine. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit une sensibilisation populaire.
Forte de cette première parution, c'est un deuxième tome du droit expliqué aux enfants qui devrait sortir dans les prochaines semaines pour continuer d'approfondir les connaissances.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue. Got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive, so baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Je m'appelle Marie Crespe et je suis maîtresse de conférences en droit privé à l'IUT Bordeaux-Montaigne.
Et l'auteur, du coup, de cette BD, Le droit expliqué aux enfants. Alors, du coup,
qu'est-ce qui vous a amené à faire une BD sur le droit? Qu'est-ce qui vous a un petit peu inspiré, donné envie de faire une BD sur le droit, la sensibilisation au droit?
Le droit, la sensibilisation au droit. Merci pour cette formule qui est très, très belle, très juste. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, c'est le constat de la nécessité que tout un chacun connaisse le droit, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes. Le constat aussi que tel n'était pas le cas, donc d'un besoin, d'une lacune dans les connaissances, dans la culture générale de tout un chacun. Alors, de tout un chacun adulte, et puis évidemment de tout un chacun enfant, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de livre qui explique le droit en tant que système aux enfants. Et c'est vrai que dans mes enseignements, j'ai constaté ou ressenti en tout cas une certaine parfois opposition au droit, une certaine réticence, pardon, des préjugés négatifs. Et je me suis... Enfin, il m'est apparu évident qu'une partie de ces opinions, de ces préjugés, pouvait être liée à la méconnaissance du droit et au sentiment d'injustice qui peut découler de l'absence de connaissance des règles quand on se les voit imposer de fait, enfin par la force des choses, puisqu'on vit tous dans le droit. Donc à un moment, elles vont s'appliquer de manière plus sensible, de manière plus forte. Et tout ça fait que je me suis dit, mais en fait... Ça ne peut pas fonctionner une société comme ça si on n'a pas tous un petit peu une connaissance basique des règles, du système dans lequel on vit. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis voilà, je sais pas, moi d'abord j'adore les enfants. Et quand j'explique le droit au mien, je me suis dit, bon, et les autres alors comment ils font? Alors effectivement, il y a pas mal de ressources en ligne, notamment où il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour défendre les droits des enfants, ça c'est certain, pour expliquer aussi certains droits. Mais pas le droit en tant que système, pas comme on explique le corps humain aux enfants, pas comme on explique l'univers aux enfants. Et voilà, donc c'est de tout ça que m'est venue l'idée et l'envie de réaliser ce projet.
Et passer par la BD, c'est ce qui vous semblait le plus pédagogue, le plus facile pour sensibiliser du coup au droit?
Alors, le plus, je ne sais pas. En tout cas, indispensable, oui, mais pas exclusif. C'est-à-dire que le livre n'est pas exclusivement illustré par des BD, parce qu'il me semblait nécessaire aussi d'avoir des parties où on explique les choses de manière générale. Alors que la BD... Alors, certains livres, effectivement, ne passent que par la BD. Mais dans ce cas-là, je trouve ça difficile, ou en tout cas pour les enfants, d'expliquer des choses générales à travers des petits personnages. D'abord, je voulais poser un cadre. Mais effectivement, après ce cadre général, la BD, elle est indispensable pour mettre en situation, pour amuser aussi, parce que le dialogue... créer l'humour, créer les situations, les mises en situation, les répliques, voilà, l'évolution des personnages, etc. Et puis c'est vrai aussi, les enfants aiment les BD. Alors pas que les enfants, en vrai, la BD, le roman graphique est un art qui progresse fondamentalement. Donc voilà, c'était un... nécessaire et opportun aussi parce que ça touche et ça parle aux enfants, la BD. Voilà.
Comment vous l'avez imaginé? Enfin, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? On fonctionne par question, hein, c'est ça?
Oui, le livre est organisé par 11 entrées, 11 questions, donc 11 thèmes, les thèmes les plus généraux, les questions qu'il me semblait qu'on se posait quand on ne connaît pas le droit. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut en prendre connaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le respecte pas? C'est un métier, le droit? Enfin voilà, toutes ces questions un peu générales et qui sont censées balayer, donner une première approche pour commencer à identifier le droit. Voilà.
C'est oui un premier socle en fait.
C'est la première étape et effectivement quand j'ai fait ce premier volume, je pensais pas au deuxième volume forcément. J'étais déjà super contente d'avoir mené à bien cette entreprise, cette aventure, mais en réalité l'idée de la suite elle est apparue très vite parce que je me suis dit en fait ça suffit pas. Et puis plein de lecteurs aussi m'ont dit mais et la suite, c'est pour quand? Et il y a d'autres questions qui se posent. Et j'ai dit oui, oui. Et donc, et effectivement, très rapidement, peut-être un mois après, j'ai dit bon, allez, on va faire le deuxième. Enfin, voilà, c'était évident que j'allais passer très vite à la suite. Et la suite, effectivement, après cette première étape, donc vraiment générale, qui pose les bases, qui permet de dégrossir. Le deuxième livre va effectivement un peu plus dans la technique du droit, parce qu'on a posé les bases. Donc déjà on est appuyé sur quelque chose d'un peu concret qui nous situe, on n'est plus perdu. Donc c'est vrai que lire le deuxième avant de lire le premier, alors le deuxième n'est pas encore sorti, hein, il va sortir d'ici un mois et demi, mais j'espère que les gens ne vont pas forcément commencer par le deuxième au risque d'être un peu plus perdu ou de trouver ça vraiment un peu difficile parce qu'effectivement je pars de l'acquis du premier et donc les questions du deuxième sont beaucoup plus juridiques. Les juristes qui liront ça leur évoquera des sujets qu'on apprend à la fac de droit, que je ne nomme pas de la même façon, que je n'explique pas de la même façon, mais qui sont exactement ce qu'on apprend en droit, donc de manière ludique, accessible aux enfants. Voilà, il n'y a pas de, j'emploie pas les mots barbares du droit, mais c'est pas grave, l'étiquette on s'en fiche, ce qui compte c'est d'expliquer le contenu, et le contenu il est là. Ouais.
Alors vous avez travaillé avec Clara Lang pour le volume 1, donc comment s'est passé le travail, enfin un duo, puisque du coup vous êtes pas du tout dans cet univers. Comment ça s'est goupillé tout ça?
C'est une aventure. Hein. C'est une aventure. Chacune a fait un pari assez grand, hein, parce qu'on se connaissait pas, parce que ce qu'on devait créer n'existait pas, donc pas de repères, pas vraiment de modèle. C'était aussi une liberté d'ailleurs, hein, d'avoir un boulevard pour se dire ok, on crée ce qu'on veut, ce qui nous semble pertinent. Mais donc n'empêche que c'était un pari. Et puis parce que c'était une première pour toutes les deux. Moi, j'avais jamais fait de livre avec des illustrations. Clara, elle avait, je crois, jamais vraiment travaillé comme ça avec un auteur. Voilà, donc c'était un vrai pari. Et on a eu de la chance. On est deux jeunes femmes, les plus jeunes que moi, mais deux jeunes femmes intelligentes. Elle dessine très bien. Elle est travailleuse aussi parce qu'il a fallu vraiment, vraiment travailler. Et elle n'a pas eu peur. Bah oui, on reprend la copie quand ça ne va pas. Donc oui, parfois c'est aussi un peu fatigant, on se dit stop, en fait on voudrait arrêter, mais non, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on estime de mieux. Donc c'est un travail long, exigeant et en même temps gratifiant et qui fait sens. C'est-à-dire que Clara, elle s'est lancée dans ce projet aussi parce que le sujet lui parlait, parce que c'est un sujet qui a une utilité, un but social ou d'intérêt général ou de changer un peu les choses. Alors de manière modeste certes, mais n'empêche qu'on est toutes les deux convaincues que la société ou le monde tournerait un petit peu mieux, plus rond, s'il y avait des connaissances un peu plus partagées en ce qui concerne le droit.
Et ce projet, il vous a pris combien de temps à partir du moment où vous avez un peu donné le feu vert et jusqu'à l'édition de la BD?
Longtemps. À peu près 2 ans. Ouais, 2 ans. Alors, on n'a pas travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans. Il y a eu des périodes de stand-by parce que l'une ou l'autre, on était prise par autre chose. Puis parce qu'aussi, il fallait laisser le temps au temps. Créer un concept, créer un livre de A à Z. Dans son organisation, dans toute sa dimension pédagogique. Voilà, c'était laisser le temps au temps, laisser le temps de respirer, de créer, de trouver. Voilà, mais le deuxième volume, pas 2 ans. Moi, maintenant que je savais plus comment faire le livre, quels étaient ses ingrédients, etc. Comment ça marche aussi, comment on crée un livre. Moi, je dors avec, je mange avec, je bois avec. Donc, il y a eu un moment, en fait, j'avais besoin d'être délivrée de ça aussi. Il fallait que ça s'arrête, il fallait passer à autre chose. Donc, quand j'ai commencé le deuxième, j'ai dit... J'ai proposé à Clara, qui, elle, était overbookée sur plusieurs mois à venir. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Mais comme je veux le faire maintenant, bah, j'y vais. Mais avec l'illustratrice Camouche, donc, qui fait le volume 2... Dès le début, j'ai dit, moi, si on le fait ensemble, voilà, il faudra qu'il y ait un timing pas trop long. Voilà, alors c'est pareil, hein, tout ça, c'est des discussions, on s'entend. Et à chaque fois, j'ai eu de la chance sur les deux volumes, vraiment, c'est des personnes, des illustratrices de qualité très professionnelles. Donc c'est chouette, c'est de la chance.
Je reviens un peu sur le droit expliqué aux enfants. Quel est, pour vous, l'intérêt d'apprendre si jeune, le droit d'apprendre si jeune, ces bases de droit pour la suite?
Alors déjà, c'est un petit défi, voilà, parce qu'on ne le fait pas, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on part du principe que ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas apprendre le droit aux enfants. Donc, il y a un petit côté défi que je trouve stimulant et intéressant. Mais un défi pour un défi, bon, pas trop d'intérêt, mais un défi qui fait sens, encore une fois. Et donc, quel est le sens d'apprendre le droit aux enfants? Mais c'est d'en faire des membres à part entière de la société. On leur apprend plein de choses aux enfants. Quand on compare ce qu'on leur transmet comme connaissance aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait leur apprendre aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande de savoir, mais pas le droit. C'est pas possible. Donc, en réalité, ils sont membres actuels de la société. Ils ont des droits en tant que personnes. Ils sont de futurs citoyens. Ils sont à un âge où on apprend les règles du vivre ensemble. Et donc, alors, le vivre ensemble ne passe pas que par le droit, mais en partie par le droit. Et précisément, qu'est-ce qui passe par le droit? Qu'est-ce qui ne relève pas du droit? Quelles sont les limites du droit? Tout ça me semble mais indispensable de le savoir. Alors, à hauteur d'enfant, mais précisément, on pose des bases, on sème des petites graines pour tout le monde. Déjà, comme ça, après, chacun, dans sa vie scolaire, personnelle, professionnelle, va étoffer, laisser grandir cette petite graine, ou étoffer les connaissances qu'il va pouvoir acquérir et les greffer à partir de cette structure que tout le monde aura pu avoir. Parce que c'est effectivement mon idée, c'est que la connaissance du droit soit aussi diffuse que n'importe quel autre savoir qu'on estime logique que les enfants aient. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une sensibilisation populaire, une éducation populaire pour tout le monde. Voilà.
Et comment on peut parler du droit avec ses enfants si on n'a pas forcément la BD? Comment, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut vous le disiez, planter ces petites graines?
Alors, dans la vie de tous les jours, c'est difficile parce que les adultes qui entourent les enfants, quels qu'ils soient, n'ont pas forcément les connaissances en droit. Donc c'est très difficile en réalité. Mais bon, je me dis que si la génération qui vient avait les connaissances, en réalité ça n'arriverait plus, et les adultes de demain pourraient déjà discuter avec leurs propres enfants. Mais alors aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de connaissances en droit, c'est très difficile d'enseigner ou de discuter de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors il faut se renseigner soi-même. Il y a des livres, il y a beaucoup de sites, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour rendre accessible la connaissance du droit, mais ça reste difficile. Alors, oui, c'est vrai, je ne sais pas trop comment on pourrait enseigner le droit quand on ne le connaît pas, c'est vrai.
Peut-être finalement lire,
alors,
un état adulte.
Les adultes qui le lisent apprécient, oui. C'est très simple, mais beaucoup m'ont dit, mais on apprend des choses. Et on en discute avec nos enfants. Ça ressort quasiment systématiquement, les discussions, les échanges. Donc c'est un moment aussi de partage dans la famille, entre amis, à l'école, au centre d'animation, peu importe. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est moi, je ne conçois pas l'enseignement comme déverser un savoir, mais plutôt comme appeler les gens, éveiller les gens à se poser des questions. Voilà. En fait, c'est ça l'intérêt. Et peut-être pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, comment enseigner le droit dans la vie de tous les jours ? En se posant des questions. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire ça ou pas ? Comment savoir s'il a le droit ? Est-ce que c'est juste ou pas juste ? Mais qu'est-ce que ça veut dire juste ? Est-ce que le droit définit ce qui est juste ? Comment il le... Voilà. En vrai, je pense que c'est plus ça qu'il faut apprendre à avoir comme réflexe, à se poser des questions, à se donner le droit de poser des questions. Souvent, j'ai l'impression que c'est un peu dans la culture française, on est un peu timide ou complexé, on a peur de poser les mauvaises questions, de dire des bêtises, mais en fait, on ne peut pas dire de bêtises. On dit quelque chose qui est juste ou qui est faux, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est gagnant-gagnant dès lors qu'on le dit, parce qu'on va l'éprouver, parce qu'on va le confronter. Et donc, déjà, si on se pose des questions, c'est positif. Et d'avoir la réponse, c'est très bien. Parfois, il n'y a même pas de réponse. Et ça aussi, apprendre que dans la vie, parfois, il n'y a pas toujours de réponse, que ce n'est pas très clair. Et que le droit, notamment, va à l'inverse d'un présupposé qu'on lui attribue. On pense que c'est carré, que tout, qu'il y a réponse à tout. Ben non, dans plein de cas, il n'y a pas forcément de réponse précise. Est-ce que c'est bien ou pas bien qu'il n'y ait pas de réponse précise ? Ça aussi, c'est une autre question. Hein. Voilà, donc la différence entre ce qui relève de l'opinion ou ce qui relève de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en droit ? C'est une bonne question, mais voilà. Après, donc on n'a pas forcément les réponses, mais peut-être déjà d'apprendre à se poser les questions. Oui.
Et une dernière question, est-ce que un tome 3 est envisageable ou pas du coup, parce que vous étiez parti pour faire un seul tome et finalement vous continuez?
Il y a largement la place de faire un tome 3, ça c'est certain. Est-ce que j'ai envie de faire un tome 3, c'est certain aussi. Après voilà, quand, je sais pas. Et est-ce qu'il y aurait un tome 4, ça je suis un peu moins certaine. C'est-à-dire que autant j'ai déjà les idées pour le tome 3, autant après peut-être qu'une fois qu'on a fait le tour avec ce format là et qu'on a fait le tour des questions principales d'une introduction au droit, peut-être qu'il sera temps de passer à un autre format ou à un autre sujet en particulier, je sais pas. En tout cas, le tome 3, j'espère. Oui.
Bonne nuit sur 8FM, voici votre musique préférée.
Je t'aime. 8FM.
I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. You wanna work it out, work it out. It's only gonna get worse. I'm midnight medication. Just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Let me work it out. Let me work you out. Let me. You wanna work it out?
I'm picking where all the girls are driving crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my nut. Don't you know why I'm so hot? Cause I am picking where everything is in a lock. Like on me and do your thing. I'll make you scream my name. Honey, holy ho, set your goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am. I'm PK cause I'm all alone. You know that it's screaming. Yes it's screaming, no oh, oh, oh. I'm PK cause I'm all alone. And maybe I'm alone cause I'm a picky one. I got a lot of girls waiting for me not to call. Another Sunday morning on my own.
¿Por qué? Porque siempre dices lo mismo. Lonest massage, so I am. Bim bam bam, I fall down in shame again. Only cause you laughing with your friends about me with the comportamiento. I'm picking, you're freaking out, dating my hellos. And women consistent, too persistent. I'm cold and distant, remember me. And all the girls are driving crazy.